Ça, c'est uniquement sur Radio J.
Et oui, uniquement
Radio J, la chronique pour la paix.
Uniquement sur Radio J. Uzi Meyerson, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour Lise.
Alors nous retrouvons pour une deuxième émission notre invité d'il y a 15 jours, je cite Edgar Laloum qui est avec nous pour la sortie, à l'occasion de la sortie de son livre de réflexion « Les amandiers en fleurs de Jérusalem » paru aux éditions La Boîte à Pandore.
Alors, bonjour Edgar Laloum, là
bonjour.
Nous sommes en studio, là directement. Votre livre « Les amandiers en fleurs de Jérusalem » est plein de souvenirs et de réflexions sur votre expérience en tant qu'éducateur en Israël et en France. Je rappelle que cette vocation a pour origine, comme vous l'écrivez à plusieurs reprises, le sionisme, le désir de justice sociale et la recherche de la paix. Lors de notre dernière émission, le 15 novembre, nous avons parlé de votre travail pédagogique au sein de l'association Beit Ram à Jérusalem et de votre rencontre avec les jeunes juifs en difficulté dans cette ville. Vous avez pu constater que ces jeunes souffrent, je vous cite, d'une profonde fracture identitaire. En fait, ils sont orientaux, leurs familles viennent de pays musulmans, mais ils rejettent leur culture d'origine et détestent les Arabes. Pour les aider à se réconcilier avec eux-mêmes, vous imaginez de les faire rencontrer des Palestiniens de leur âge habitant également Jérusalem. Alors Edgar Laloum, racontez-nous comment avez-vous réalisé ces contacts, qui vous a aidé et comment ça s'est passé?
Beit Ram, c'est une association qui existe depuis 1981. Nous étions toute une équipe. D'ailleurs, à l'origine, Beit Ram devait se faire s'ouvrir dans un quartier qui était limitrophe avec la vieille ville de Jérusalem, parce que dès le départ, nous avions l'intention de faire rencontrer des jeunes Israéliens et des jeunes Palestiniens dans le quartier de Mousrara à Jérusalem. Ça n'a pas pu se faire. On nous a installés à Ir Ganim. Et il a été clair pour nous que quelque chose se passait au niveau de la relation identitaire qu'avaient ces jeunes avec leur histoire de juif arabe. Je me définis moi-même comme juif arabe, dans la mesure où j'ai des us et coutumes très arabisantes. Quand je regarde les photos de mes grands-parents, on voit nettement qu'on est dans un monde qui est totalement imprégné.
Ils étaient d'Algérie,
de Sétif en Algérie. J'ai des photos qui sont assez impressionnantes, d'ailleurs, on voit qu'ils sont habillés. Et pour eux, pareil, ces jeunes avaient exactement la même histoire. Ils avaient des histoires de fraternité avec le monde arabe dans duquel ils venaient, surtout les Marocains de Marrakech, les Marocains de Casablanca, les Marocains de Meknès ou de Fès. Il y avait des relations entre les Juifs et les musulmans. D'ailleurs, je suis assez étonné, depuis que je suis arrivé en France, de voir à quel point on essaye de dézinguer totalement cette histoire de rapprochement entre les Juifs et les Arabes par plusieurs historiens, dont M. Bensoussan, qui n'a de cesse d'essayer de démonter ça ou de remettre en question Cordoue. Je le dépasse très vite. Pour moi, il était clair que ce problème identitaire était à travailler. Parce que c'est pas pour rien que ces jeunes-là se retrouvaient être des jeunes très extrémistes anti-arabes quand on les a rencontrés dans les années 80 en Israël. Et il y a eu un accueil du Parti travailliste en Israël de ces jeunes-là qui était un accueil assez compliqué et assez dur dans la mesure où on les appelait pas les juifs orientaux ou les juifs séfarades. On les appelait les juifs arabes. Et ils rentraient dans un pays qui était en guerre contre le monde arabe. Pour eux, c'était quand même quelque chose duquel il fallait se démarquer de manière la plus nette possible. Je pense que c'est une des explications qui a fait qu'ils se sont retrouvés très nettement antagonistes au monde arabe autour d'eux.
Oui, mais sans vous contrarier, mon cher Edgar, il y a quand même près d'un million de Juifs arabes qui ont quitté chez eux. C'est
bien
pas
sûr.
Par... Zélo Bezrat Hashrem, c'est pas le Saint-Esprit.
Mais il,
les
est, clair,
partés,
il est clair que la création de l'État d'Israël a créé des tensions qui ont fait que... D'ailleurs, on sait que...
Les pogroms de Bagdad,
bien
de
sûr,
Tunis,
de Constantine.
C'est avant... j'ai connu d'autres juifs arabes avec qui j'ai fréquenté d'une manière très proche, qui ne partageait pas tout à fait la vision Cordoue, etc. de votre... Je crois que la vérité est des deux côtés.
La vérité est fluctuante. La vérité, elle est qu'il y a eu des moments de bonheur et il y a eu des moments de tension et d'horreur.
Vous savez, c'est Garodi.
Moi, j'aimerais bien qu'on développe peut-être un petit peu plus, au lieu de ne parler que du malheur de cette relation, qu'on parle aussi de ce qui a été des moments d'harmonie, des moments de rencontre, des moments de respect mutuel. Et ils ont existé et j'aimerais qu'on les mette en exergue aussi un petit peu.
Mais vous savez, il n'y a pas de justice sans vérité.
Tout à fait, voilà. Je suis d'accord.
Mais les jeunes dont vous vous occupiez, ils étaient quand même dans une forme de malheur.
Ils ont connu... je ne veux pas reprendre l'histoire d'Itik, mais c'est vrai qu'il y avait des relations entre ces familles marocaines et leurs voisins, leurs amis musulmans, des familles qui ont vécu du bonheur et une harmonie avec ces familles-là.
Mais alors pourquoi est-ce qu'ils étaient tellement remontés?
Mais parce que les parents l'ont tué, totalement tué à leurs enfants. Cette histoire de la mère d'Itik, c'est qu'ils avaient... Parce qu'il y avait quelque part une honte de dire qu'on était des copains des Arabes. Dans un pays qui était en pleine guerre contre le monde arabe. C'était très compliqué.
Alors racontez-nous comment ça s'est passé.
Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on a rencontré ces jeunes qui étaient très remontés contre les Arabes. Il a été pour nous important de démonter quelque part le regard qu'ils pouvaient avoir sur ce monde arabe-là en les faisant rencontrer avec des jeunes palestiniens. Il y a eu une période où c'était très possible, c'était la période des années 90 avec le processus d'Oslo, où on a eu la possibilité de nous mettre en relation avec des écoles, des collèges, des lycées palestiniens. Et à partir de ces rencontres-là, on les a, en Israël et en Palestine, fait rencontrer, c'est-à-dire à Bethléem, on a été à Jérusalem, on a été à Haïfa, on a été avec des groupes de jeunes. Alors il y avait toujours... Le participant français de l'histoire, vu que nous sommes français d'origine, on a fait donc plein de rencontres tripartites, jeunes israéliens, jeunes palestiniens, jeunes français. Les français jouaient un petit peu le rôle d'intermédiaire aussi, pour pouvoir faciliter un petit peu la relation.
Des facilitateurs,
et ils l'ont joué ce rôle de manière magnifique. Et on est partis ensemble, avec ces trois groupes, israéliens, palestiniens et français, on est partis en France, on a fait un séminaire à Grenoble. C'était presque au début de la deuxième intifada.
2000.
C'était très compliqué, mais on a réussi quand même à monter ce... Et ce qui était très étonnant, c'est qu'on arrive, et c'était dans un séminaire qui était organisé à Grenoble par le service social de Grenoble, qui nous avait accueillis, et dont le thème central de leur séminaire, c'était la laïcité. La laïcité, pour les Arabes et pour les Juifs, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas de mot qui vient traduire ce terme-là. Dans ces deux communautés-là, la revendication identitaire, elle est totalement à l'encontre même du principe ou du concept de laïcité. On s'est retrouvé à expliquer tout le temps, aussi bien aux Palestiniens qu'aux Israéliens, de quoi on parlait. Parce que c'était vraiment un thème qu'ils avaient du mal à attraper.
D'accord. Ces contacts entre jeunes israéliens qui n'étaient pas a priori des sympathisants des Palestiniens et les Palestiniens qui étaient en début d'intifada, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des frottements, des incompréhensions? Comment vous avez fait pour qu'ils puissent se parler? Parce qu'a priori, à l'époque, se parler, ça ne se passait pas très bien.
Je ne vais pas vous cacher qu'on a eu très peur.
Ah oui,
quand on y allait, on n'y allait pas, la main dans les poches, en sifflotant. On les avait bien préparés, et d'un côté et de l'autre. Les éducateurs s'étaient vraiment beaucoup rencontrés. Et à notre grand étonnement, très vite, les relations se mettaient en place. Je vous parle dans le bouquin de cette rencontre avec des jeunes filles israéliennes et palestiniennes qui sont retrouvées à Gennevilliers pour présenter un film, chacun de son côté. Quand ils sont arrivés là-bas, c'était un événement international, il y avait des Allemands, des Suédois, des Belges, et il y avait des Israéliens et des Palestiniens. Les Israéliens et les Palestiniens, les jeunes Israéliens et Palestiniens, qui devaient monter un film chacun séparément, se sont, sans nous le dire, retrouvés ensemble pour faire leur film en commun. Et il fallait voir la tête du maire de la ville de Gennevilliers qui voyait ces deux jeunes filles-là qui se tenaient la main pour présenter leur film, totalement émues de se retrouver devant une grande salle pleine comme ça pour présenter leur film. Ils avaient décidé de le faire ensemble parce qu'ils s'étaient retrouvés. Des accointances beaucoup plus fortes entre eux qu'avec les autres nations qui étaient là, qui étaient représentées.
Et vous, c'est... vous étiez au courant ?
Mais moi, j'étais au courant au moment où ils allaient le présenter.
Oui, c'est ça.
Ils me l'ont dit à la fin. Alors que j'étais responsable et de la délégation israélienne, de la délégation palestinienne, qui est arrivée séparément. Ils avaient même décidé dans l'hôtel, dans l'auberge où ils étaient, de les mettre dans des chambres éloignées pour pas qu'il y ait, que Dieu nous en préserve,
une
altercation quelconque entre eux. Ils se sont retrouvés, c'était assez formidable de voir à quel point ils se sont retrouvés des points communs, des repères l'un avec l'autre, parce qu'effectivement, il y a énormément de repères, de passerelles qui existent, culturelles, sociales, mentales, qui existent entre ces deux peuples, surtout au niveau de la jeunesse. La musique, la bouffe, tout ça, c'est vraiment des éléments qu'ils ont en commun. Et que pour nous, ça a été très facile de les mettre en relation à ce niveau-là.
Alors d'accord.
Alors je vais pas raconter qu'il n'y a pas eu de temps en temps des tensions. Il y avait tous les soirs, après chaque activité, des débats qui étaient en hébreu, en arabe et en français. Traduits dans ces trois langues-là, où les choses se disaient de manière claire, posées sur la table, avec beaucoup de véhémence quelquefois, mais aussi avec beaucoup de respect.
D'accord, mais alors, juste précisez-moi, il n'y a pas eu de rencontre entre les jeunes Israéliens et Tsabarim orientaux et les Palestiniens en Israël, à Jérusalem ?
Si, bien sûr.
Parce que vous parliez d'Aubervilliers, c'est pour ça. Mais vous avez aussi des rencontres là-bas, sur place.
Bien sûr. Okay. Jérusalem, c'était le premier lieu de rencontre entre les Israéliens et les Palestiniens. La première fois qu'on a fait une rencontre, c'était entre les jeunes de Beit Ram, donc Jérusalem, et les jeunes de Beit Jala.
C'est à côté.
Qui est une petite ville de Bethléem. Oui, c'est avec eux qu'on a fait les premières rencontres. C'est là que tout s'est installé.
D'accord. Alors, je ne veux pas jeter un froid, mais quand même, vous écrivez. Hein, c'est vous qui l'écrivez dans votre livre. Quand a éclaté la seconde intifada, alors tout s'est effondré. Et quel bilan vous tirez de cette histoire alors ? Parce que vous avez fait des efforts.
Tout s'est effondré.
Et puis ça s'est effondré dans un bain de sang. Quoi.
Ce qui s'est effondré, c'est la possibilité de se rencontrer. Ce qui s'est effondré, c'est l'impossibilité de pouvoir se remettre en relation. Là, ça s'est effondré parce que des deux côtés, et du côté palestinien et du côté israélien, la fermeture se faisait de manière hermétique.
Oui.
Donc c'est en ça que je parle d'un effondrement.
Oui.
Allez-y, vas-y.
Je voulais montrer le livre à l'écran. Merci.
Ah, d'accord. Mais...
Bah oui. Voilà, merci.
Et c'est en ça que je parle d'effondrement, parce qu'à partir de là, à partir de la deuxième intifada, on n'a plus pu créer, on les a fait de manière clandestine, parce que jusqu'à maintenant, si moi je vais en Palestine, si je vais de chez moi à Jérusalem, vers Ramallah, il y a un panneau qui écrit,
attention,
vous prenez vos responsabilités, tout ce qui vous arrivera à partir de là, c'est plus de notre responsabilité, on vous met en garde et on peut se choper une énorme amende si on se fait attraper. Donc on fait tout pour ne plus avoir de possibilité de se rencontrer. Alors maintenant, évidemment, on a beaucoup travaillé aussi à Beit Ram avec les Arabes israéliens.
Bien sûr,
ceux de Abou Ghosh. Et jusqu'à maintenant, il y a eu un voyage qui a été fait avec des jeunes d'Abou Ghosh et des jeunes de Beit Ram au Maroc tout dernièrement. Et c'est vraiment encore des rencontres qui se font autour du sport, autour du karaté, du football, des choses comme ça.
Abou Ghosh, c'est plus facile quand même.
Abou Ghosh, c'est facile. Abou Ghosh, c'est une ville très particulière au niveau de la relation avec Israël.
Oui. Alors, il nous reste très peu de temps là. Il nous reste trois minutes. Juste une seconde. Vous arrivez à Aubervilliers. Vous vous retrouvez au milieu encore d'une fracture identitaire, la fracture française. Comment vous travaillez avec les jeunes de banlieue ? Parce que vous parlez de niveau de haine que soulevait le conflit israélo-palestinien.
Effrayant, une haine effrayante. Mais il y a un truc énorme, extraordinaire. J'ai beaucoup travaillé avec les jeunes des banlieues, Aubervilliers, Pantin, Arcueil, Champigny, c'est tout un tas de lieux dans lesquels j'ai évolué depuis que je suis arrivé en France. Et ce qui était impressionnant, c'est à quel point ces jeunes se ressemblent. Pour moi, c'est, des fois même, je confondais Itzik avec Ibrahim. Parce qu'ils se ressemblent dans leur comportement, leur manière de parler, leur manière d'être. C'est absolument impressionnant.
Voilà, c'est fini, Edgar. Voilà. Merci beaucoup.
Les Amandiers en fleurs de Jérusalem, paru chez La Boîte à Pandore. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci. Chronique pour la paix.
Chanouka Sameach à tous.
Chanouka Sameach.
La fête de la lumière, et ça, c'est important.
C'est important. Oh.